23h30 en temps universel, 4h30 N'Djamena, à l'écoute de RFI, 6h30 à Antananarivo.
Arthur Ponchelet.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, on est ensemble pendant 30 minutes pour faire le tour de l'actualité africaine, avec d'abord le journal et ce communiqué du ministre tchadien des Affaires étrangères à la une. Il annonce la fin de l'accord de coopération en matière de défense avec la France. C'était hier soir, quelques heures seulement après le départ de son homologue français, de N'Djamena. Certains doivent patienter plus de 12 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. En Namibie, la commission électorale prolonge le vote de 2 jours pour les élections législatives et présidentielles. Conséquence, des nombreux dysfonctionnements dans les bureaux. La campagne, elle, bat son plein à Madagascar. Les rues se drapent aux couleurs de la coalition présidentielle. Nous serons à Antananarivo dans un instant. Au sommaire également, cette déclaration du président du Soudan du Sud. Salva Kiir veut rassurer une semaine après les affrontements autour de la résidence de l'ancien chef des renseignements. On évoquera aussi la reconnaissance par Emmanuel Macron du massacre au camp de Tiaroy au Sénégal. C'était il y a 80 ans. Et puis de la musique, revisite du répertoire traditionnel tunisien avec Nidal Yayaoui à la fin de ce journal. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière. Les mots du ministère tchadien des Affaires étrangères hier soir. N'Djamena annonce mettre fin aux accords de défense avec la France. Annonce faite quelques heures seulement après la visite du ministre français des Affaires étrangères dans le pays. Alexandra Branjon était sur place pour RFI.
Le communiqué a été publié hier soir sur la page Facebook du gouvernement tchadien. On peut y lire « Le gouvernement a décidé de mettre fin aux accords de coopération signés avec la France visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision prise après une analyse approfondie marque un tournant historique », affirme le communiqué. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le gouvernement ajoute que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Que veut dire cette rupture? S'agit-il d'un départ de tous les soldats français du sol tchadien? Aujourd'hui, ils sont environ 1000. Ou est-ce un appel à revisiter la coopération? En tout cas, rien n'a filtré à la sortie de l'entretien en fin d'après-midi entre le président tchadien Mahamat Debi et le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui effectuait une visite de 24 heures dans le pays. Aucune des deux parties n'a semblé montrer de signe d'une dégradation des relations. Côté français, il n'y a pas eu de déclaration dans la soirée. Alexandra Branjon, Addis Abeba, RFI.
2 jours supplémentaires pour voter en Namibie. Les élections présidentielles et législatives auraient dû se terminer mercredi soir. Mais les Namibiens ont finalement jusqu'à demain pour glisser leur bulletin de vote dans les urnes. Décision de la commission électorale validée par le président sortant. Valentin Hugues, c'est le résultat de la forte participation, mais aussi de nombreux dysfonctionnements dans les bureaux.
Certains électeurs ont été privés de leur droit de vote, annonce la commission, parce que cette élection, qualifiée de la plus disputée de l'histoire du pays, avec le parti historique SWAPO sur la sellette, a surtout viré au fil d'attente interminable. Manque de bulletins dans certains bureaux, matériel informatique qui dysfonctionne, résultat des citoyens qui font le pied de grue toute la journée devant les bureaux de vote, qui parfois doivent patienter plus de 12 heures dans une chaleur étouffante, ou qui n'ont tout simplement pas réussi à accéder aux urnes. Les partis politiques en lice se sont rapidement indigné d'une telle situation. Réponse de la commission, prolonger le scrutin. Mais pour certains partis d'opposition, ce vote devrait tout simplement être annulé. Le processus électoral devrait recommencer à zéro. Continuant de croire que le vote est délibérément perturbé par la commission électorale pour permettre à la SWAPO de rester au pouvoir. Finalement, la commission a préféré l'option d'étendre la période du vote encore 2 jours dans une trentaine de bureaux, notamment en livrant de nouvelles piles de bulletins pour permettre à l'ensemble des 1,4 millions d'inscrits d'accomplir leur acte démocratique. Reste que l'opposition pourrait ne pas reconnaître l'issue du scrutin. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
À Madagascar, les élections, ce sera le 11 décembre prochain. On votera pour élire de nouveaux maires. Et depuis 10 jours, la grande île s'anime au passage des voitures de campagne, au rythme des concerts et des distributions de dons. Et si chaque candidat tente d'investir le plus l'espace public, la coalition présidentielle IRMAR semble gagner la bataille de la visibilité. RFI Antananarivo, Pauline Le Troquier.
En 10 jours, la majorité des communes de l'île se sont drapées d'orange, la couleur de la coalition présidentielle. Au-delà d'occuper davantage l'espace public que leurs adversaires, les candidats du pouvoir n'hésitent pas à utiliser un argument différenciant pour convaincre le soutien apporté par l'État, comme l'explique Stella Razanamaev, porte-parole de SAFID, la plus grande mission d'observation électorale du pays.
Les candidats qui sont proches du pouvoir profitent de cette opportunité et ils osent même dire candidat panzakane, c'est-à-dire candidat de l'État. C'est un mot qui ne devrait pas se dire, mais pour faire la campagne, c'est une sorte d'intimidation que si vous n'allez pas élire le candidat d'État, nous n'allons jamais voir le développement de notre commune.
Un discours commun au candidat Irmar, généralisé à l'échelle du pays et véhiculé en dépit des textes qui imposent le principe de neutralité de l'administration pendant la campagne. D'autant que l'argument compte agitant la crainte chez les plus précaires d'être soudainement privé d'allocations sociales, détaille encore Stella Razanamaev.
Il utilise cet argument puisque ça marche avec la population sans éducation électorale.
6 mois plus tôt, en pleine campagne des élections législatives, le chef de l'État, Andrzej Duda, avait multiplié les inaugurations et discours de soutien non dissimulés aux candidats du pouvoir. Saisi, la Haute Cour constitutionnelle avait considéré que le président exerçait seulement ses fonctions. Pauline Troquet, Antananarive, RFI.
Antananarive, où il est 6h36, 5h36, à Djouba, il entend calmer les esprits. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a pris la parole hier, une semaine après l'incident autour de la résidence de l'ancien chef des renseignements. Souvenez-vous, des tirs nourris avaient été échangés sur place. 4 personnes ont été tuées. Les autorités évoquaient alors un malentendu lors du transfert du général Akol Korkouch vers une autre résidence. Mais depuis, les rumeurs se multiplient. Florence Mietto.
Coup d'État imminent, troubles au sein du quartier général de l'armée. Les spéculations vont bon train à Djouba depuis les affrontements autour de la résidence de l'ancien espion en chef du Soudan du Sud. Dans son message d'hier, le président Salva Kiir s'est voulu rassurant.
The beneficiaries of war.
Ceux qui profitent de la guerre et de l'instabilité sont derrière ces rumeurs. Ils n'ont aucun intérêt dans la paix. Ils sont déçus que notre pays soit en paix depuis que nous avons signé l'accord de 2018. Ils diffusent des rumeurs pour propager la peur et l'incertitude dans l'esprit des citoyens. En tant que président, je suis là pour vous assurer que notre pays est en sécurité.
Our country is secure and safe.
Salva Kiir a réitéré sa promesse de ne pas replonger le Soudan du Sud dans la guerre et a appelé les citoyens à, je cite, « construire notre beau pays tout en restant vigilant ».
Apprenez à défier ces rumeurs, ne les prenez jamais avec sérieux, car ce sont des mensonges.
Un message très largement relayé sur Internet, même si les interrogations subsistent sur les circonstances exactes de l'incident du 21 novembre, au cours duquel 4 personnes ont été tuées. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Au Kenya, William Ruto, lâché par les églises. Depuis quelques jours, le président est sous le feu des critiques des organisations religieuses. Dernière en date, l'Alliance des églises évangéliques du Kenya. Elle s'est exprimée hier pour dénoncer la gouvernance de William Ruto et elle demande une convention nationale de restauration pour discuter des défis auxquels le pays fait face. Gaëlle Lalex.
Il est temps que les Kenyans se réunissent pour défendre notre nation contre les nombreuses attaques qu'elle subit, a déclaré hier l'évêque Philippe Kitoto. Il dresse une liste extensive de reproches faits à la politique de William Ruto. Fiscalité accablante, réforme de la santé et de l'éducation inefficace, corruption, violence policière, atteinte à la cohésion sociale. La première à s'être lancée contre le président kényan est la puissante conférence des évêques catholiques du Kenya. Le 14 novembre, elle accuse William Ruto de culture du mensonge. Elle s'inquiète des velléités du président de se maintenir au pouvoir. Une réforme constitutionnelle est en effet dans les cartons pour passer le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Depuis lors, l'église anglicane du Kenya, la presbytérienne, les Akorino, une congrégation de 500 000 fidèles du centre du pays, et la coalition kenyane des alliances d'églises et ministères, une organisation œcuménique, lui ont emboîté le pas. Dans son discours sur l'état de la nation la semaine passée, William Ruto a promis d'écouter les chefs religieux du pays. Ses critiques le fragilise. Au Kenya, plus de 85% de la population est chrétienne. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Il est 4h40 à Paris. Le président sénégalais a accordé une interview à la télévision française hier soir. Et Bassirou Diomaye révèle qu'Emmanuel Macron reconnaît un massacre à Tiaroy. Dans ce camp près de Dakar, les troupes coloniales ont ouvert le feu sur les tirailleurs qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de soldes. C'était il y a 80 ans, le 1er décembre 1944. Le bilan officiel est de 70 morts, bilan contesté par les historiens qui parlent plutôt de plusieurs centaines de victimes. Magali Lagrange.
On n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais j'ai reçu une lettre du président Macron, explique Bassirou Diomaye Faye. Dans ce courrier, le chef de l'État français écrit que le 1er décembre 1944, la confrontation de militaires et de tirailleurs qui exigeaient que soit versée l'entièreté de leur solde légitime a déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Pour le président sénégalais, c'est un pas qui doit ouvrir la porte à une collaboration pour la manifestation de toute la vérité. Bassirou Diomaye Faye évoque la chape de plomb qu'on a régulièrement cherché à mettre sur cette histoire. Dans son courrier, Emmanuel Macron mentionne aussi la quête de vérité historique. Il importe d'établir autant que possible les causes et faits ayant mené à cette tragédie, estime-t-il. Il souhaite être tenu informé de l'avancée des travaux du comité pour le rétablissement des faits mis en place au Sénégal. Le chef de l'État français appelle à poursuivre dans le temps la coopération entamée pour, je cite, « écrire la réalité de l'histoire et bâtir une mémoire partagée et apaisée ».
Emmanuel Macron qui recevait son homologue nigérian hier. Bola Tinubu est en visite d'État en France pour 3 jours. Une visite largement centrée sur l'économie avec un objectif: renouveler et élargir le partenariat entre Paris et Abuja. Pas d'annonce concrète à ce stade, mais des promesses d'investissement dans de nombreux domaines de la part du président français. On termine ce journal en musique avec une star de la musique tchaoui. Le Tunisien Ndial Yayaoui revisite le patrimoine musical de son pays en y intégrant des instruments modernes, Olivier Roger.
Ne dites pas à Ndial Yayaoui qu'il fait de la fusion. Sa musique est une transposition moderne d'air traditionnel, une adaptation qui s'appuie sur la force percussive du tbal, le bourdonnement de la flûte gapsa, auquel s'ajoute la guitare électrique et parfois même les consoles électroniques. Le chanteur des quartiers du Vieux Tunis, formé au conservatoire, musicien et musicologue, s'intéresse au répertoire traditionnel de sa région, du nord-ouest de la Tunisie, celle de Seliana, une musique proche de celle des chaouis algériens. Ce soir, il proposera au public francilien un concert basé sur le projet Masreb El Ataya, Ndial Yayaoui.
Ataya, ce sont les travailleurs saisonniers qui viennent chaque année du sud-ouest jusqu'au nord-ouest. Et on a retracé ce voyage et on a récolté les poèmes et les chansons qui vont avec. Ces poèmes et ces chansons parlent de tout, de souffrance, parlent de l'amour, même de lutte.
Un chant des moissons aux accents à la fois festifs et poignants, s'appuyant sur un répertoire qui traverse les générations.
Ndial Yayaoui sur RFI. Il est 4h43 à Tunis, 3h43 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Voilà pour le journal. Restez avec nous. Dans le prochain quart d'heure, nous irons en RDC à l'occasion du sommet mondial sur le plastique. On traverse les rues d'Uvira au sud-est du pays. Vous l'entendrez, la ville est jonchée de déchets plastiques. Direction ensuite le Sénégal. On s'intéresse à la littérature jeunesse, un secteur en plein essor dans le pays. Marie-Pierre Olfan nous attend ensuite pour la chronique des matières premières. On va parler de café et de hausse des prix qui n'en finit pas. Et puis, cap sur les territoires français de l'océan Indien, comme tous les matins, on fait le point sur les grands titres de l'actualité avec nos confrères de la première. Comment se débarrasser du plastique? Voilà 5 jours que les représentants de 176 pays penchent sur la question. C'est le sommet plastique, ça se passe à Busan, en Corée du Sud. En Afrique, les déchets plastiques sont partout. C'est le cas, par exemple, à Uvira, au sud-est de la RDC. Ils jonchent les caniveaux, les principales avenues et les rives du lac Tanganyika. Et sur place, rien n'est fait pour s'en prémunir. RFI reportage, Coralie Pierret.
Pour entrer chez lui, Makashira, un jeune homme de 18 ans, doit enjamber des flaques débordantes de déchets plastiques. Sa maison, située en centre-ville d'Uvira, dans l'est de la RDC, borde le lac Tanganyika.
On nous a enseigné pourquoi les déchets sont mauvais. On nous a dit que c'est qu'il amène des pollutions, on nous a dit que ça amène des moustiques. Mais tout ce qu'on nous enseigne à l'école, on ne met pas ça en pratique. C'est ça le problème. Lorsque nous trouvons des déchets, nous jetons seulement là au balcon directement dans l'eau. On n'a pas une poubelle pour jeter ça.
Sans système de ramassage des poubelles, sans décharge publique ni entreprise de recyclage, il n'y a aucune alternative pour la population locale autre que celle de déverser ses ordures un peu partout. Le maire d'Uvira, Kiza Muato, promet la création d'une cellule d'assainissement et d'hygiène pour la ville.
Nous voulons, dans l'année 25, mettre en place cette cellule pour récolter tous ces déchets plastiques. Dans quelques mois, je pense qu'il y aura une étude chez la province du Sud Kivu sur la gestion totale de tous les déchets dans toutes les villes.
L'eau, les boissons sucrées, les chaussures, les chaises, les tables, les bassines, le plastique est partout et utilisé quotidiennement. Selon Mouza Bitaka Jean-Marie, le directeur du Centre de recherche en hydrobiologie d'Uvira, la solution est simple, réduire sa consommation.
On va me demander maintenant l'eau, où est-ce qu'on va alors conserver ça? Les jus que nous prenons chaque jour, que nous utilisons même dans les fêtes, où est-ce que nous allons mettre ça? Mais ma réponse serait, il y a à peu près 10 ans, la production de l'eau dans les plastiques, ça n'existait pas. Donc le plastique n'est autre qu'un produit qui est récent. Si nous arrêtons ça, sa consommation, je pense que ça ne poserait pas un problème si la conscience écologique arrive à être ancrée dans les habitudes des gens d'Uvira.
Les conséquences de la présence de déchets plastiques pour la santé humaine sont encore peu connues dans la zone. Mais selon Massilia Mulungula, professeur à l'université de Bukavu, qui a mené une étude sur le lac Tanganyika, ces eaux sont fortement concentrées en microplastiques. Le macroplastique, quant à lui, sédimente les fonds lacustres, cachant ainsi certaines zones de reproduction des poissons, la pêche étant l'une des principales activités de la région. Coralie Pierret, Uvira RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site RFI.fr.
RFI, toute l'actualité, Arthur Ponchelet.
Vendredi 29 novembre, on fait le point sur les principaux titres de l'actualité internationale. Avec d'abord Israël et le Hezbollah qui s'accusent de violation du cessez-le-feu au Liban. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël conservera une liberté d'action totale au Liban et se réserve le droit de riposter si sa sécurité venait à être menacée. Vladimir Poutine menace de frapper des centres de décision à Kiev avec son puissant missile Oreshnik, utilisé pour la première fois la semaine dernière après de nouvelles attaques massives sur le réseau électrique ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui appelé ses alliés à opposer une réponse ferme face à ce qu'il appelle le chantage de Moscou. La police géorgienne a tenté de disperser des manifestants qui protestaient contre la décision du gouvernement de retarder à 2028 les négociations pour intégrer l'Union européenne. Un mois après les législatives contestées, remportées par le parti au pouvoir Rêve géorgien et dénoncées par l'opposition comme entachée d'irrégularité. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées à Tbilissi et dans d'autres villes de Géorgie, agitant des drapeaux européens et géorgiens. Et puis en France, concession sur l'électricité, geste sur l'immigration. Michel Barnier tente de convaincre le RN de renoncer à la censure sans accéder à toutes les lignes rouges revendiquées par le parti d'extrême droite. À quelques jours d'échéance cruciale sur les textes budgétaires à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a déclaré qu'il renonçait à augmenter les taxes sur l'électricité. Il accède aussi, en partie au moins, à la demande du RN de réduire l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Marine Le Pen a affirmé de son côté que Michel Barnier a jusqu'à lundi pour répondre aux lignes rouges du RN sur le budget. c'est un secteur en plein développement. Au Sénégal, le livre jeunesse rencontre un franc succès, un salon international lui a même été consacré à Dakar, c'était la semaine dernière. Deuxième édition de ce rendez-vous. Des éditeurs sénégalais et de tout le continent sont venus présenter leur dernier livre. C'est l'Afrique économie du jour, signé Juliette Dubois.
Donner l'amour de la lecture aux enfants, c'est l'un des objectifs du Salon du Livre Jeunesse. Et les goûts des petits Dakarois ce jour-là sont variés.
Quel genre de livre t'aimes bien ?
Les livres romantiques. Les bandes dessinées. Les histoires de Dakar.
Alpha Diallo, de la maison d'édition sénégalaise Les Classiques de la Teranga, observe le marché depuis plusieurs décennies.
On a beaucoup d'éditeurs, surtout des gens qui sont arrivés récemment dans le milieu de l'édition, qui éditent surtout dans la jeunesse.
Quel genre d'ouvrage fonctionne bien, se vend le mieux ?
Souvent les contes. Également où on parle des histoires africaines surtout.
Ariel Hachandi et sa cousine Wilfrida l'ont bien compris. Tout sourire devant leur stand, ces deux étudiantes gabonaises passionnées auto-éditent des beaux albums jeunesse de légendes africaines depuis 2 ans. Un projet familial.
Bon, ma grand-mère écrit, ma tante illustre et moi je fais le commercial.
Ariel fait imprimer ses livres en France car elle n'a pas trouvé la qualité d'impression qu'elle recherchait à Libreville. Le transport représente un coût très important, 150 000 francs CFA pour faire venir 30 livres. Et cela se répercute sur le prix des albums qu'elle vend 15 000 francs CFA pièce.
Vous allez vous rendre compte que nos prix sont les plus chers parce que nous sommes auto-éditeurs, on n'a pas cette opulence-là d'avoir des partenaires, d'avoir de l'impression directement dans l'édition, etc.
Ariel et Wilfrida ont réussi à placer leurs 4 ouvrages dans les librairies de Libreville. Le salon leur permet de prendre des contacts de nouveaux partenaires sur le continent. Pour d'autres maisons d'édition comme les Classiques de la Teranga, le gros de la clientèle reste les écoles.
Vous savez, beaucoup d'écoles ont des bibliothèques. Vous voyez, dans des écoles où ils ont une heure de bibliothèque ou 2 heures de bibliothèque par semaine pour les enfants. C'est eux qui achètent vraiment beaucoup.
Derrière le Salon du Livre Jeunesse, qui en est à sa 2e édition, il y a Alassane Cissé qui dirige la maison Baobab Édition. Ce rendez-vous au cœur de la capitale est l'occasion pour lui de faire un plaidoyer pour le secteur.
Le marché doit être aussi alimenté, soutenu par l'État du Sénégal, par les États africains, par l'Union africaine, pour qu'il y ait plus de livres de jeunesse et pour enfants, pour que les enfants et les jeunes se cultivent, pour que les enfants et les jeunes voyagent à travers le livre.
Un fonds d'aide au secteur de l'édition existe au Sénégal, ce qui permet à certaines grandes maisons d'édition de proposer des prix abordables à partir de 1500 francs CFA le livre. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Afrique Économie à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. Jamais son prix n'avait été aussi élevé depuis un demi-siècle. Le café Arabica est au plus haut depuis 1977. Une hausse alimentée par les inquiétudes qui pèsent sur la production brésilienne. Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières.
Depuis le mois de septembre, les prix du café sont suspendus à la météo brésilienne, car c'est le moment, la période où les arbres doivent recevoir des pluies pour que la floraison se fasse correctement. Les précipitations sont arrivées en octobre et parfois même des pluies diluviennes. Dans la plupart des régions productrices, la floraison a été exceptionnelle, à en croire les analystes de Rabobank, mais les marchés restent inquiets. Ils n'ont pas de garantie sur l'évolution des fleurs qui donneront dans plusieurs mois les cerises de café dans lesquelles on trouve les grains. Le risque d'un nouvel accident climatique est loin d'être écarté. Or, le Brésil est le fournisseur numéro 1 en Arabica et de mauvaises nouvelles venues de ce pays-là suffisent à faire trembler les prix. D'autant que les stocks ne sont pas suffisants pour éponger une mauvaise récolte. Le résultat se traduit sur les marchés. La livre de café a atteint plus de 320 cents à la bourse de New York, soit un record depuis 1977. Dans ce contexte inédit, 2 sociétés exportatrices du Brésil ont demandé une renégociation de leurs dettes. Les prix actuels ne leur permettent plus d'assurer les risques financiers qu'ils prennent et mettent en difficulté leur trésorerie. Le café Robusta n'est pas épargné non plus. La tonne qui avait atteint plus de 5 800 $ en septembre vaut toujours plus de 5 000 $ à la Bourse de Londres. Comme il fallait s'y attendre, les industriels commencent à répercuter ces hausses inédites. Les annonces se multiplient pour préparer les consommateurs à trouver en magasin des paquets de café plus cher ou alors plus petit.
Il Il est bientôt 4h en temps universel, 8h à Saint-Denis de la Réunion. Dans quelques minutes, le journal sur RFI. Alban Le Prince nous attend pour faire le tour de l'actualité internationale. Mais d'ici là, on fait le point sur l'actualité des territoires français de l'océan Indien avec nos confrères d'Outre-mer La Première. Et c'est avec vous, Alexis Léveillé.
Madame, monsieur, bonjour. Pas de cours au lycée de Kahani hier à Mayotte. Mercredi en début d'après-midi, des élèves ont été attaqués par un groupe de jeunes. Trois individus ont été interpellés. Raphaël Kahn de Mayotte La Première.
Ils étaient près d'une vingtaine selon la gendarmerie. Cinq élèves ont été légèrement blessés par des jets de pierre et pris en charge au dispensaire de Kahani. Un homme aurait également reçu un coup de machette lors de ces affrontements. Les agresseurs étaient vêtus de combinaisons de peinture blanche. Cet accoutrement n'a pas empêché trois individus d'être interpellés hier, formellement identifiés comme auteurs de violences selon la gendarmerie. Il y a à peine deux mois, un lycéen de Kahani avait été tué dans la nuit lors d'affrontements entre bandes rivales.
Le maire de Boueni, à Mayotte, pourrait perdre son mandat. Muslim Abdourahman était jugé pour favoritisme et prise illégale d'intérêt. Le parquet a requis 3 ans de prison dans 2 fermes et une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Le délibéré sera rendu le 10 décembre, compte rendu d'audience avec Raphaël Kahn.
Le maire de Boueni est accusé d'avoir passé des marchés publics sans mise en concurrence, quitte à les diviser en plusieurs lots. Les sommes sont importantes, 2 photocopieuses pour 50 000 euros ou encore l'abattage de 3 arbres pour 80 000 euros. 19 entreprises ont déjà été condamnées à des amendes et de la prison avec sursis. Elles ont reconnu des faits de favoritisme. Muslim Abdourahman et son avocat plaident plutôt pour une méconnaissance de la procédure.
Vous avez à Mayotte une départementalisation qui est récente, qui remonte à 11 ans, 12 ans. Donc je pense que la loi n'est acceptée, n'est appliquée que quand elle est comprise. Il faut du temps.
Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de sa part. L'avocat juge donc les réquisitions disproportionnées. Le maire de Boueni est aussi accusé d'avoir embauché des membres de sa famille à la municipalité. Ses 3 sœurs et son beau-frère, comme directeur administratif et financier. Ce dernier était aussi jugé hier dans cette affaire, après avoir enchaîné les revalorisations salariales et les primes. Le parquet a requis à son encontre 1 an de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende.
Et le nouveau préfet de La Réunion était lui en visite dans les champs de Cannes hier. C'est mieux sur le terrain que derrière un bureau à prendre des notes, dit Patrice Latran. Il a pu se rendre compte des difficultés, des besoins des agriculteurs. Claudette Vaitinegon.
Chapeau la paille sur la tête et une grande balade sur l'exploitation de Jean-Noël Tonon à Sainte-Marie, le préfet s'imprègne du monde agricole en découvrant de façon concrète les difficultés comme l'utilisation des herbicides par manque de main-d'œuvre pour le désherbage, aux maladies qui s'attaquent à certaines variétés de canne et surtout les problèmes de trésorerie. Sarah Salah Ali, présidente de la commission agricultrice à la FDSEA.
Mais aujourd'hui, on a le département qui ne suit pas. On a plus de 900, voire 600 dossiers qui sont en attente. On nous demande de replanter la canne. On a une subvention pour ça, mais aujourd'hui, on n'a pas assez de trésorerie pour pouvoir le faire.
Une démonstration de la coupe de la canne a permis de soulever le problème de la main-d'œuvre. Peur de perdre les aides sociales, certains ne répondent pas à l'appel de ce travail saisonnier. Des dispositifs existent pourtant pour pallier cette inquiétude, comme le R+ proposé par le conseil départemental. Il vient d'être modifié et formalisé, comme l'explique Philippe Labro, le président du syndicat Sucre Réunion.
Il vient d'être complété par l'État qui a mis en place une aide qui s'élève pour les coupeurs à 600 euros pendant la campagne sucrière. Et puis, des travaux ont été faits pour éviter que les personnes concernées perdent leurs allocations.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès des différents organismes et partenaires du monde agricole.
Et Claudette Vaitinegon de Réunion La Première. Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Bonne journée à vous aussi, Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette demi-heure d'actualité africaine. Vous restez avec nous dans 2 minutes, c'était l'heure d'un nouveau journal sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Les frères Timal. Luigi.
Tibi-tibi, tu sais déjà que toi c'est le sang, c'est la famille. Je n'ai jamais vraiment aimé comment on s'habille, ton petit ami. Avec quand
RFI Musique,
on sera toujours heureux. Tant qu'on leur donne beaucoup, qu'on se contente de peu.
8 milliards de voisins.
Diarra Ndiaye attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Depuis quelques années, start-up et compte Instagram se multiplient pour initier ou aider les femmes à perfectionner leur gestion budgétaire. Comment appréhender son budget de manière apaisée? Quel autre levier en matière d'éducation financière des femmes?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI. Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Quelle carte RFI utilise-t-elle ? Si la France a réaffirmé la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, le contentieux perdure. Outil diplomatique qui mêle géographie et politique, la carte attire le regard de nos auditeurs.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval. Tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr.